L'Éden de Satan numéro 32. Questions et réponses pour les ministres africains de l'Afrique centrale. 20 février 2022. Pasteur Brian Kozurek. Réunion de questions et réponses des ministres francophones de février 2022. Question numéro 1. Lors de notre dernière réunion des ministres, vous avez dit que le septième sceau concerne uniquement sa venue et non l'apparition. Bien que l'apparition soit un mystère en soi, alors, je vous invite à considérer la citation suivante. La fête des trompettes d'Im 19 juillet 64 M191. Écoutez. Je veux dire encore une chose. Soyez attentifs. Maintenant, Néhémie manquait pas ceci. C'était vraiment saisissant. Du message du septième ange, le messager du septième sceau, et Apocalypse 10. C'était le septième sceau, jusqu'aux sept trompettes, entre ces deux moments-là. Oh Dieu, comment le dire pour que les gens le voient? Puisque nous croyons qu'Apocalypse 10, c'était son apparition, que pensez-vous de cette citation? Réponse numéro 1. Apocalypse 10 est une longue période de temps. Ce n'est pas instantané. Il dit qu'il n'y aura plus de temps. Permettez-moi de clarifier ce point. En 1897, le célèbre auteur chrétien J. B. Rotherham de Cincinnati, Ohio, a écrit une traduction de la Bible, dite « La Bible amplifiée ». Dans sa traduction, il nota ce qui suit, dans cette édition, le mot parousia est uniformément rendu par présence, venue, en tant que représentant de ce mot étant mis de côté. Il poursuit la parousia. Est encore à venir, et peut donc encore être teinté d'une certaine mesure d'obscurité que seul l'accomplissement peut dissiper, il peut s'agir in fine à la fois d'un temps plus ou moins long, au cours duquel certaines choses se produiront, un événement, venant et disparaissant comme une série d'interpositions divines, où Christ ressuscite comme prémisse, c'est-à-dire un événement, où il revient et accorde la faveur de sa présence, pendant laquelle il ressuscite les siens, c'est-à-dire un autre événement, cependant, grand et prolongé, et enfin arrive une autre série d'événements constituant la fin. D'où, après tout, la présence Esther peut être la traduction la plus largement et durablement satisfaisante de la tant recherchée parousia du Fils de l'Homme. Un autre auteur vivant à la même époque, du nom de Israel P. Warren, théologien, de Portland dans l'État du Maine, a écrit dans son livre « La Parousia » 1879 aux pages 12-15 en parle souvent du deuxième avènement, de la seconde venue, etc. Mais les Écritures Néhémie parlent jamais d'une deuxième parousia. Quelle que soit sa nature, c'était quelque chose d'exceptionnel, qui Néhémie s'était jamais produit auparavant et qui Néhémie devrait jamais se reproduire. Cela devait être une présence différente et supérieure à toutes les autres manifestations de lui-même aux hommes, de sorte que sa désignation devrait se suffire par elle-même, sans aucune autre épithète qualificative que l'article, la présence. De ce point de vue du mot, il est stérile et vide, je pense, que ni le mot anglais coming, venu, ni le mot le latin ad, avènement, Néhémie soient les meilleurs équivalents du mot. Ils Néhémie sont pas conformes à son étymologie. Ils Néhémie correspondent pas à l'idée du verbe dont il est dérivé. Ils Néhémie pourrait donc pas être remplacé de manière appropriée que par le mot plus exact de présence. Au cas où les traducteurs auraient utilisé ce dernier mot, leurs racines plus grand que non plus, Néhémie sont pas les mêmes. Venue et avènement mettent plus en évidence l'idée d'une approche vers nous, d'un mouvement vers nous. Parousie celle d'être avec nous, sans montrer comment cela a commencé. La force de la venue, ou avènement, prend fin avec l'arrivée, Celle de la présence commence avec l'arrivée. Venue et avènement sont des mots de mouvement, tandis que la présence indique le repos. L'espace de temps couvert par l'action de la venue ou avènement est-ce illimité? Il peut être momentané. Celle de la présence est-elle illimitée? Si nos traducteurs avaient gardé ce mot parousia comme ils l'ont fait avec baptisma en le transférant inchangé, ou s'il avait été traduit en utilisant son équivalent étymologique exacte présence et s'il avait été bien compris, comme il l'aurait dû être alors, à savoir qu'il n'existe pas de deuxième présence, je crois que toute la doctrine aurait été différente de ce qu'elle est maintenant. Les expressions second avènement et seconde venue n'auraient jamais été entendues. L'Église parlerait de la présence du Seigneur, à travers laquelle ses espoirs devaient se réaliser, que ce soit dans le futur ou à une époque plus reculée, où le monde devrait être renouvelé, où la résurrection, à la fois spirituelle et corporelle, devrait s'accomplir, et où la justice et les récompenses éternelles seront accordées. Il poursuit, le mot parousia est devenu le terme officiel pour une visite d'un personnage de haut rang, surtout des rois et empereurs visitant une province, avant de passer à d'autres auteurs des âges passés, qui savaient qu'il devait venir une parousia de Christ, parce que Jésus, Paul, Pierre, Jacques et Jean ont tous écrit à ce sujet. Je veux juste m'arrêter ici et réfléchir sur certaines choses déjà dites. Tout d'abord, J.B., Rotherham dit en 1897, la parousia était encore dans le futur, mais nous savons que cela va arriver. C'est aussi ce que frère Branham a dit, quand il dit, que Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Deuxièmement, Israël P. Warren a dit que le mot parousia ou présence implique le repos. Frère Branham a dit, à l'ouverture du septième sceau, il y a un temps de détente, qui estère le repos. Israël P. Warren dit également, si nous avions compris que ce mot n'estère pas venu mais présence, cela aurait complètement changé notre perception de la parousia de Christ. Ce qui estère le cas. Et William Branham, a plusieurs fois dit, qu'il y a une différence entre l'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur. Que ce sont deux mots différents, signifiant deux choses différentes. Israël P. Warren a également dit que l'Église parlerait de la présence du Seigneur, à travers laquelle ses espoirs devaient se réaliser, et dans sa prédication, intitulée La présence de Dieu, non reconnue 6. 18-64. Frère Branham dit, œuvrant pour ce seul but, que vous reconnaissiez la présence de Jésus-Christ, voyez, s'il est présent, alors tout est réglé. Il a prononcé la parole. Il est ici pour la confirmer. Et alors, William Branham dit aussi dans le même message, si nous pouvons réaliser, qu'il nous apparaît dans ces réunions dont ce seul but est celui de libérer nos désirs, que nous avons en lui, en notre faveur. Mais nous devons reconnaître sa présence. Et comment reconnaissez-vous sa présence? C'est lorsque la parole promise pour cet âge, est rendue manifeste. En 1909, C.I. Scofield écrit dans son édition de la Bible que le mot parousia parle de la présence personnelle de Christ. Voir page 1212. 2. Plus, n'importe quel lexique grec vous donnera cette même définition. Mais Apocalypse 10, 1-6, parle de ce que Dieu fait lui-même et au verset 7, nous montre, à qui il vient, avec un livre ouvert. Mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous n'y regardez qu'au ministère du septième ange, quant à ce qu'il a déjà accompli, vous manquerez l'autre moitié de ce grand ministère et la pleine signification du ministère d'Apocalypse 10.7 et ce que ce prophète nous a enseigné, quand il disait, le septième ange est terre sur la terre, au moment de cette venue. Il doit y avoir l'oméga d'un alpha, et pour que l'alpha et l'oméga puissent se ressembler parfaitement, il doit également y avoir une portion du ministère du septième ange, qui est voué à la résurrection, sinon les deux ministères ne se ressembleraient pas. Car lorsque cette deuxième moitié du ministère s'accomplira, nous serons alors enlevés pour rencontrer le Fils de Dieu, et à ce moment-là, le septième ange messager doit être ici sur la terre, pour nous présenter au Fils de Dieu. Question numéro 2. En citant le prophète dans la brèche 17 mars 1963 SP, 20. Et, lorsque les sceaux seront brisés, le mystère sera révélé. C'est alors que l'ange descendra, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre, et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Lors de la dernière réunion des ministres, voulez-vous dire que cette citation concerne la seconde venue? Ou ai-je mal acquis compris? Parce qu'à mon humble avis, c'est l'accomplissement d'Apocalypse 10, qui est son apparition. Réponse numéro 2. J'espère que vous serez d'avis que le ministère du septième ange n'est pas complet jusqu'à ce que nous soyons changés et enlevés pour rencontrer le Fils de Dieu. Si vous ne le croyez pas, alors vous devez croire que quelqu'un d'autre viendra pour nous présenter au Fils de Dieu. Mais l'épouse doit être présentée au Fils de Dieu par le septième ange messager. Maintenant, nous avons été présentés à la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, mais pas au Fils de Dieu. Et d'après Genèse, le type s'était accompli lorsque Rebecca, type de l'épouse, Esther descendue du chameau, la puissance que lui utilisa pour voyager avec elle, pour aller à la rencontre du Fils promis, et ils se sont rencontrés dans les champs. Mais ensuite, ils s'en allèrent dans la tente pour consommer le mariage. Ainsi, il reste encore l'accomplissement de cette partie. Question numéro 3. Les âmes qui sont en prison maintenant. 10 novembre 1963 MP. 160. L'épouse Esther scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le sixième sceau Esther manifesté. Le septième sceau le ramène sur la terre. Le ramène. S'agit-il du Père ou du Fils? Parce qu'il a dit que le Fils, quand il vient pour la deuxième fois, il ne m'y viendra pas sur la terre, mais nous le rencontrerons dans les airs. Le fidèle Abraham 12 mars 1961 p. 92. Et c'est la prochaine chose qui arrive pour l'Église. Nous qui sommes vivants et restés pour la venue du Seigneur, n'empêcherons pas ceux qui dorment, car nous serons changés en un instant pour recevoir le Fils promis. Où va-t-il venir? Ici sur terre? Non. Dans les airs. Nous ne le rencontrons pas ici sur terre, et nous ne pourrions pas le rencontrer dans ce genre de corps. Réponse numéro 3. Nous le rencontrons dans les airs. Mais il descend pour les Juifs. Le Père Esther déjà ici. Ainsi, le septième Sonémi pouvait pas ramener quelqu'un qui était déjà ici sur la terre. Le septième sceau concerne uniquement la seconde venue du Fils de Dieu. Souvenez-vous, l'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur sont deux mots différents et ils signifient deux choses différentes. L'apparition, c'est Esther maintenant, c'est Esther avant la venue. Convaincu et ensuite concerne 21 mai 1962 p. 31. Eh bien, Jean était tellement sûr qu'il allait voir le Messie qu'il a dit, il est Esther parmi nous maintenant. Observez maintenant. 60 remarqué. Il y a une très grande différence entre le signe de l'apparition de Jésus et puis la venue de Jésus. Ce sont deux mots différents qui signifient deux choses différentes. L'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur. Paragraphe 61. Bon. L'apparition du Seigneur. C'est Esther maintenant. Quand il apparaît parmi son peuple. Son esprit agissant parmi eux. Confirmant qu'il est Esther avec eux. Les préparant pour l'enlèvement. Pour la venue du Seigneur, pour enlever son épouse, voyez. L'apparition et la venue. Très bien. Maintenant, ce que nous devons faire, si nous pouvons croire cela, et être concernés à ce sujet, d'abord nous devons être convaincus que c'est Esther Dieu. Ensuite, quand nous sommes convaincus, alors nous sommes concernés, Dieu a un chemin pourvu 28 juillet 1962 p. 81. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas lapidé parce qu'ils ne connaissaient pas leur jour? Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon jour. Ils n'ont pas reconnu Jean avant sa mort et son ensevelissement. Ils n'ont pas reconnu Jésus avant sa mort et son ensevelissement. Ils n'ont pas reconnu Saint Patrick. Jeanne d'Arc. L'Église catholique l'a brûlé sur le bûcher comme une sorcière. Car cette femme avait la puissance dans la prière et elle avait des visions. Et on dit que c'était une diseuse de bonne aventure. Une sorcière. Et ils ont brûlé cette femme-là. Alors qu'elle implorait la miséricorde. Oh. Évidemment. Vous avez fait pénitence 200 ans plus tard. En déterrant les corps de ces prêtres et en les jetant. Mais cela était passé près de vous. Et vous n'aimez l'aviez pas reconnu. Même les disciples avaient dit, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit premièrement venir? Il a dit, Élie est déjà venu et vous n'aimez l'avez pas su. Cela passe par-dessus la tête et vous n'aimez le savez pas. Néhémie manquait pas cela. Le Saint-Esprit. Christ est ici. Eh bien. Rappelez-vous ces deux mots avant que je vous quitte. L'apparition de Christ et la venue de Christ sont deux choses différentes. Christ apparaît maintenant dans la plénitude de sa puissance. Sa venue aura lieu après, son apparition avant sa venue. Que Dieu soit miséricordieux. Depuis ces temps-là, 13 juillet 1962 p. 102. Combien savent qu'il y a une différence entre l'apparition de Christ et la venue de Christ? Ce sont deux mots différents. Maintenant, c'est Esther l'apparition. La venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu de nous, accomplissant dans son Église les œuvres qu'il a autrefois faites. Maintenant, vous êtes une partie de cette Église, et par la grâce vous croyez. Je suis un membre de cette Église. Eh bien, je n'y suis pas un prédicateur. 226 Vous savez que je n'ai mais le suis pas. Je n'ai pas d'instruction pour l'être. Parfois, j'hésite de me tenir ici près des hommes de Dieu qui sont appelés pour cet office. Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Tous n'aimés sont pas apôtres. Tous n'aimés sont pas prophètes. Tous n'aimés sont pas docteurs. Tous n'aimés sont pas évangélistes. Je me tiens ici. 227 Mais mon ministère est différent de celui d'un pasteur ou d'un docteur. Je suis. Je n'aimais le suis pas. Et si je dis mal à qui les choses? Frère. Pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère, voyez? C'est Esther de le déclarer lui. Qu'il est Esther ici. Messieurs, nous voudrions voir Jésus 27 juin 1962 p. 76. La civilisation a voyagé dans le même sens que le soleil. Le soleil s'est Esther levé à l'Esther. Et le même soleil est soit le Yel qui se lève à l'Esther. Esther le même est soit le Yel qui se couche à l'ouest. Nous avons eu un jour sombre. Comme le dit la Bible. Qui n'est appelé ni jour ni nuit où on a eu juste de quoi adhérer à l'Église. Et faire du bien et ainsi de suite. Mais il y aura la lumière au temps du soir. Et le même FILS, Fils de Dieu, qui s'Esther levé là-bas à l'Esther, chez le peuple de l'Orient, qui a manifesté ses bénédictions et sa puissance. Ça a été un jour sombre. Mais maintenant sur la côte ouest. Si nous allons plus loin, nous retournons de nouveau en Chine, à l'Esther, nous retournons au pays de l'Esther. Maintenant, nous sommes sur la côte ouest, et le FILS apparaît avant sa venue. Souvenez-vous, l'apparition et la venue sont deux mots différents. Voyez-vous, il apparaît maintenant dans l'Église, montrant qu'il est Esther vivant après 2000 ans. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Très bien. Cela pourrait être déroutant. Mais l'esprit qui est Esther ici est Esther le même esprit qui était dans le Fils de Dieu. Alors quel esprit? Esther's? C'est Esther toujours l'esprit de Dieu. Dieu Esther entré dans le corps de son Fils au fleuve Jourdain. Puis le quitta à Gethsémané. Ce même esprit qui est à rentrer dans son fils a appris à ce fils à s'abandonner à l'esprit et à vivre la vie de fils. Ce même esprit est descendu en 7 heures pour venir dans d'autres fils pour nous apprendre à vivre la vie des fils. Jean 5, 26, car, comme le Père a fait l'écho de la vie en lui-même, ainsi l'a donné au fils d'avoir de faire l'écho de la vie en lui-même. Jean 1, 18 Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est Esther dans le sein du Père, Esther celui qui l'a fait connaître. Ainsi, si personne n'a jamais vu Dieu, à aucun moment, dit Jésus, alors le Fils l'a fait connaître, et le mot faire connaître, vient du mot exegomē, mettre devant, afin d'être vu, dévoilé par la proclamation. Et qu'a-t-il mis au devant pour être vu ou dévoilé en le proclamant? La même chose que Jean nous dit dans 1 Jean 5, 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a produit l'écho de ce témoignage en lui-même. Celui qui n'est mis croit pas Dieu le fait menteur. Puisqu'il n'est mis croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage. C'est Esther que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est Esther dans son Fils. 12 Celui qui a produit l'écho du le Fils a produit l'écho de la vie. Celui qui n'a pas né mi produit pas l'écho le Fils de Dieu n'a né mi produit pas l'écho de la vie. C'est Esther ainsi qu'il a proclamé le Père, car il a dit que quand vous le voyez, vous voyez le Père. Jean 14, 8 Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9 Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu n'es mis m'a pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Dit Néhémie, crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je Néhémie les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi. C'est Esther lui qui fait les œuvres. 11 Croyez-moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. 12 en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. 13 Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17 L'esprit de vérité, que le monde Néhémie peut recevoir, parce qu'il Néhémie le voit point et Néhémie le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. 19 Encore un peu de temps, et le monde Néhémie me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Vint en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a produit l'écho de mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 22 Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? 23 Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 24 Celui qui n'aime pas, garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. 25 Je vous ai dit ces choses, pendant que je demeure avec vous. 26 Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ainsi, cela nous fait avec le Père et son Fils premier-né, Jésus, comme lui et le Père étaient un. Jean 17, 22 Je leur ai donné la gloire, doxa, les opinions, les valeurs et les jugements que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 23 Moi en eux, et toi en moi, tire afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dans la prédication, montre, nous le Père et nous serons satisfaits souligné 2:2, 04, 1-9-5-6-36. Frère Branham dit, maintenant, à plusieurs reprises, il a été dit que personne n'aimé peut jamais voir Dieu. La Bible l'a dit. Mais le Fils unique engendré du Père, la fit connaître. Philippe, ici était très curieux. Il voulait voir le Père. Il dit ici, j'ai été pendant si longtemps avec vous. Philippe et vous n'avez m'avez jamais connu? A-t-il dit, quand vous voyez mon Père. En d'autres termes, vous voyez le Père, s'exprimer lui-même à travers le Fils. Lui et le Père, était un, dans le sens que son Père habitait en lui, ce n'était pas lui, qui faisait les œuvres, il était un Fils, lui-même, l'immortel, Fils de Dieu, né d'une vierge. Et ainsi, en lui, habita Dieu, le Père, s'exprimant lui-même au monde, son attitude envers les gens. Voyez-vous? Bien, c'est-à-dire ainsi que Dieu et Christ étaient un. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Maintenant, il a dit, quand vous voyez le Père. Et pourquoi? Dites-vous, montre-nous le Père? De nouveau dans sa prédication, Néhémie soyez pas effrayé 20 juin 1962 p. 66. Frère Branham dit, un autre mot est utilisé. L'apparition de Christ et la venue de Christ, voyez-vous? Ce sont deux termes tout à fait différents. Voyez-vous? Maintenant, Christ apparaît dans ses derniers jours dans son Église, unissant son Église par l'unité, la foi et la puissance de la parole. Toute l'Église, afin que lorsqu'il reviendra il trouve la même Église. C'est-à-dire moi. N'ayez pas peur 11 juin 1962 p. 81. Vous savez, il y a une différence entre l'apparition de Christ et l'apparition de Christ. Ce sont deux mots complètement différents. Il apparaît maintenant dans son Église. Nous le voyons. Nous voyons que c'est-à-dire lui. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Voyez-vous? Nous savons ce que c'est-à-dire. Nous croyons que le Saint-Esprit est-à-dire Dieu. Tous parmi nous, le savent. Laissez échapper la pression 9 juin 1962 SP, 58. Le péché, Esther, l'incrédulité. Celui qui n'est m'y croit pas. Esther déjà condamné. Voyez-vous? Esther juste un attribut de l'incrédulité. Mais si vous pouvez chasser tout cela de vous, dites, Seigneur, Dieu, je crois exactement ce que dit tes paroles. Et je crois, comme nous l'avions prêché le soir passé, que l'apparition du Seigneur vient avant la venue du Seigneur, car c'est-à-dire simplement deux choses différentes. Voyez? Maintenant, c'est-à-dire l'apparition, comme il l'a promis dans les derniers jours, qu'il serait avec nous. Et quel refuge, et quelle consolation, Esther's. Chrétiens, que nous pouvons nous tenir ici, ce soir, dans la présence de Dieu, en face de sa parole, et les impossibilités qu'il a promises ici, que nous pouvons voir, être manifestées juste devant nous. Persévérant 6 juin 1962 p. 95. Saviez-vous que la Bible parle de l'apparition du Seigneur, et aussi de la venue du Seigneur, et que ces deux œuvres différentes? Cherchez et découvrez si ce n'est pas juste. L'apparition et la venue sont deux choses différentes. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Il apparaît parmi son peuple. Nous le voyons dans ses mêmes œuvres, l'apparition, son Saint-Esprit, mais sa venue sera dans un être physique. Ce sera pour enlever l'Église. L'évangélisation au temps de la fin 3 juin 1962 p. 30. Sester pareil, aujourd'hui, quand vous voyez ses œuvres. Maintenant, nous avons déjà vu et rendu témoignage de l'apparition du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, l'apparition et la venue, ce sont deux mots, tout à fait différents, apparaître et ensuite venir. Maintenant, Esther l'apparition, il est Esther déjà, apparu dans ces derniers jours, juste ici avec nous, dans ces derniers jours. Maintenant, Esther un signe de sa venue. Il apparaît dans son Église dans la forme du Saint-Esprit, montrant que Esther lui. Car les gens d'Émi peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire, ainsi, Esther l'apparition du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, il Esther dit à la fois aux deux endroits, apparition est venue. Question numéro 4. Était une Émi le CEPA 15 août 1965 p. 93. Il a dit, j'ai regardé en bas. Et là, il y avait un groupe de savants. 115 et le lendemain matin, c'était le samedi. C'est-à-dire le lendemain matin que j'ai prêché sur les savants, vous savez, comme quoi ils sont du diable. Et il a dit, les savants versaient des liquides dans des éprouvettes et les mélangeaient. Deux a dit, vous avez arrêté le cheval, vous avez levé les mains et vous vous êtes mis à crier, je chevaucherai une fois de plus dans ce sentier. Et il a dit, toute la terre a tremblé. Ces gens ont été secoués. Il a dit, ils se sont regardés comme cela, et ils ont levé les yeux vers vous. Ils ont tout simplement haussé les épaules, et ils ont continué leur recherche scientifique. 116. Il a dit, vous êtes partis vers l'ouest. Et à ce moment-là, a-t-il dit, j'ai vu l'homme qui se disait prophète. Vous savez, il a dit, il est arrivé, monté sur un cheval noir et blanc. Et il a dit, il est monté en suivant cet énorme cheval. Il a dit, c'était très haut au-delà des nuages, et le chemin n'était pas plus large que ça. Et il a dit, ce cheval. Il a dit, le vent faisait souffler les plumes et tout sur votre costume. Puis il a dit, et la crinière et la queue du cheval flottaient au vent. Un grand maître, un grand cheval blanc trottant juste en ligne. Et il a dit, ce type est arrivé derrière vous. Il venait de la direction du Canada. Et cet homme habite au Canada. Il a dit, il est revenu et il a dit qu'il a pris son petit cheval et il essayait de faire tomber votre grand cheval, de le renverser. Il le retournait pour faire frapper sa croupe contre là. Il a dit, il n'a pas du tout bougé le grand cheval. Celui-ci continua de trotter. Il a dit, puis, tout à coup, a-t-il dit, vous vous êtes retourné. Il a dit, c'était la troisième fois que vous parliez, mais c'était la deuxième fois que vous disiez, je chevaucherai. Et il a dit, vous ne m'y parliez pas comme avant. Vous donniez un ordre. Il a dit, vous vous êtes retourné et vous avez appelé cet homme par son nom. Et vous avez dit, va-t'en d'ici. Tu sais qu'aucun homme Néhémie peut chevaucher sur cette route, sans que Dieu Néhémie l'ait ordonné à le faire. Va-t'en d'ici. Parlait-il au sujet de Don Parnell ou de quelqu'un d'autre? Réponse numéro 4, frère. C'était vraiment une question amusante. Frère Branham a dit que cet homme était du Canada, et Don Parnell n'avait que 10 ans et était de l'Ohio. Non. Il parle de quelqu'un d'autre. J'en ai parlé à frère Millie Paul, et il a dit qu'il n'aimait se souvient pas avoir jamais entendu frère Branham citer le nom de la personne. Ainsi, laissez cela comme ça. Ce n'est pas important. Question numéro 5. Était une Naomi le sépa paragraphe 265. Vous avez encore regardé cela. Vous avez repris les rênes et vous avez dit, je chevaucherai une fois de plus sur ce sentier. Est-ce ce que ceci concerne le ministère de la résurrection? Il dit aussi dans le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu, 28 novembre 1965 M6. Maintenant, il y a, j'étais, je me fais vieux, et je me demandais, est-ce ce que je vais? Y aura-t-il un autre réveil? Verrai-je une autre époque? Et souvenez-vous bien. Il viendra de l'ouest un cavalier sur un cheval blanc. Nous chevaucherons encore sur cette piste. C'est vrai. Dès que, nous serons prêts. C'est une promesse. Réponse numéro 5. Oui. Je crois qu'il y aura une deuxième partie au ministère de frère Branham, qui sera un ministère de résurrection. Et cela complétera l'oméga de l'alpha. Rappelez-vous, si l'alpha doit se répéter dans l'oméga, et que Jésus a eu deux parties à son ministère, un ministère pré-résurrection et un ministère post-résurrection, alors l'oméga doit également produire la même chose, sinon l'alpha n'est pas l'oméga. Eux s'ils n'émis sont pas identiques à tout égard, ils seraient alors différents. Le chef-d'œuvre d'hymne 5 juillet 64 paragraphe 172. L'alpha et l'oméga, c'est le même. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Oui. Oui. 173 Le premier ministère et le dernier ministère, c'est le même. Le premier message et le deuxième. Dernier message. C'est la même chose. J'étais dans l'alpha, je suis dans l'oméga. Il y aura un jour qui n'est mis, sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Voyez, l'alpha et l'oméga, on y est maintenant, le premier et le dernier. Oh, là là, frère, on pourrait passer des heures là-dessus. Qui est le même et n'est mis change pas? Certainement pas le vase. C'est Esther le Dieu qui utilise le vase. Malachie 3.6 et Hébreux 13.8 Le Dieu immuable à la fois dans l'alpha et l'oméga. Parce que c'est Esther Dieu qui Esther l'alpha et c'est Esther Dieu qui Esther l'oméga. Oubliez le vase. C'est Esther le Dieu du vase. Le vase n'Esther ni l'alpha ni l'oméga. C'est Dieu qui a utilisé le vase de son Fils unique et c'est le même Dieu qui a utilisé le vase de son prophète messager au temps de la fin. C'est Dieu qui est descendu avec un cri. La Bible déclare, le Seigneur lui-même, et déclare également le Seigneur. Question numéro 6. Aller au-delà du camp 19 juillet 1964 s. Oh là là! Et la trompette du Seigneur sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, apparaîtront à plusieurs. Et tout à coup, vous commencez à vous lever et regarder. Bien, il y a eu frère, et vous réalisez que cela n'est mis va plus tarder. Dans peu de temps, nous sommes changés. Est-ce l'apparition des ressuscités qui produira le changement de nos corps? Le prophète nous y enseignera-t-il pour que nous recevions la foi de l'enlèvement? Frère Vel sera-t-il là pour prêcher? Réponse numéro 6. Dieu nous donne notre changement de corps. Cela peut arriver au moment où nous voyons les ressuscités, mais celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Oui. Pour la partie 2. Je crois que le prophète de Dieu nous prêchera les paroles qui nous donneront cette foi de l'enlèvement. Souvenez-vous, dans l'Alpha, les paroles que Jésus prêcha aux croyants d'alors, les changèrent des pécheurs et des saints, lesquels étaient prêts à mourir, être crucifiés la tête vers le bas, ou être décapités, cela importait peu, parce que c'étaient des hommes changés. Oui, je crois que Frère Vel prêchera dans ses réunions. Frère Branham au début, disait, Frère Lee, quand j'aurai ma tente, je voudrais que vous puissiez prêcher au ministre la foi le matin et le soir. Mais durant les derniers moments, avant que Frère Branham n'ait quitté la scène, il ne me disait plus, Frère Vel, j'aimerais que, mais il disait, Frère Lee, quand j'aurai ma tente, vous prêcherez au ministre la foi le matin et la soir. Non plus, de la manière de je souhaiterais que mais de manière affirmative, vous prêcherez. Ainsi, oui, je m'attends à ces réunions, et elles sont réelles pour moi, comme celles que Jésus avait eues avec ses disciples après sa résurrection. Question 7. Quelle relation Frère Branham avait-il avec les hommes d'affaires du plein évangile? Comme sponsorisait-il certaines de ses réunions? Croyait-il qu'il était le prophète de Dieu? Réponse numéro 7. Certains l'ont sponsorisé et d'autres pas. Mais pas le prophète. Juste un prophète. Il est très difficile de comprendre l'esprit pentecôtiste, car il n'y percevait pas le don comme le signe du Messie. Sinon il n'aurait jamais permis que la communauté des hommes d'affaires du plein évangile soit contrôlée par ceux qui voulaient s'unir aux catholiques et prendre la marque de la bête. La plupart des gens, même dans ce message, Néhémie comprennent pas que le discernement était le signe du Messie. Et ça, c'est Hébreux 4.12-13 car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 13 Nue créature n'est cachée devant lui, mais tout est nue et a découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est un attribut et une caractéristique de Dieu, la parole. Mais les gens émis pouvaient pas voir au-delà du vase, à la parole. Et ainsi certains ont pensé que le vase était Dieu, tandis que d'autres ont simplement pensé que Frère Branham avait un esprit de sagesse. Question numéro 8. Il est dit dans les Écritures, dans Deutéronome 22:28, si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre. 29 L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 sicles d'argent, et, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il n'y pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra. Est-ce pareil aujourd'hui? Comment, Que doivent faire les pasteurs devant pareil cas? Réponse numéro 8. Avant tout, c'est la parole de Dieu. Ainsi, elle le demeure toujours. Dieu n'y change pas et il estère la parole. Quoique ceci parle d'un homme qui couche avec une vierge, ainsi s'estère une chose, et s'il met une femme en enceinte, s'en estère une autre. Maintenant, si elle n'estère pas une vierge, alors je n'ai mis c'est pas mon frère, s'estère comme s'il avait couché avec une femme de mauvaise réputation, et je n'ai mis pense pas qu'un homme estère obligé d'épouser une prostituée. Je crois que si l'homme la met enceinte, il estère obligé de la marier. Et s'il y a contraint, il estère obligé de la marier. Mais si ce n'était pas contraint, alors je n'ai mis c'est pas. 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre. Pourquoi? Nous n'y sommes pas une dénomination? 27 septembre 1958. Je lisais un passage des Écritures où il est dit qu'un enfant illégitime Némi devait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 14e génération. Combien le savent? C'est vrai. Deutéronome 23. Un enfant illégitime. Si une femme est surprise dans le champ, c'est à dire hors de la protection des hommes, et qu'un homme lui fasse violence, cet homme devra l'épouser. Et même si elle devient une prostituée, il devra vivre avec elle jusqu'à sa mort. Et si cette femme l'épouse, prétendant être vierge, alors qu'elle n'est mis l'ester pas, elle pourra être mise à mort à cause de cela. Et un homme et une femme qui sont mariés mettent au monde un enfant illégitime, celui-ci n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 14e génération. Et 40 ans représentent une génération, il faudra 400 ans pour que ce péché soit ôté d'Israël. Ainsi, comment un pasteur peut-il y faire face? Comme pour toute autre question sociale, qui est suscitée et qui se trouve dans la parole de Dieu, il doit s'en tenir à ce que dit la parole. Question numéro 9. Expose des âges de l'Église, âge d'Éphèse, chapitre 3. Or, la parole nous enseigne que si une femme quitte son mari pour aller avec un autre homme, elle estère une femme adultère, elle n'estère plus mariée, et le mari n'aimé doit pas la reprendre. Cette parole était tout aussi vraie en Éden qu'elle l'était quand Moïse l'a écrite dans la loi. La parole n'aimé peut pas changer. Adam l'a reprise de nouveau. Il savait exactement ce qu'il faisait, mais il le fit quand même. Mais d'après la citation suivante, elle n'aimait pouvait plus vivre avec elle, le mariage et le divorce 21 février 1965 MP, 77. Vous voyez, elle a un mari vivant, alors aucun homme n'aimait peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle Esther, elle a un mari vivant. Elle n'a aucune raison du tout. Mais sa Néhémie s'applique pas à lui. En effet, il s'agit d'elle, pas de lui. Saisissez-vous? On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous? Rien Néhémie dit que lui Néhémie peut pas, mais elle Néhémie peut pas. Vous voyez? L'expose, elle, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit, l'expose, elle. Il n'est pas dit que l'unémi peut pas se remarier, mais elle. Pourquoi? 176 Christ, en type. Remarquez, il est spécifié qu'unémi peut se remarier qu'avec une vierge. Il peut se remarier. Il peut marier. Il peut se remarier, si Esther avec une vierge, mais Néhémie ne peut pas épouser la femme d'un autre. Non, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme divorcée, il vit en adultère, Peu m'importe qui l'Esther. La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée en adultère. Voilà. Pas de divorcé. Absolument pas. Question et réponse 23 août 1964 SP, 104 Q316 Frère Branham. Si, un homme s'était marié puis a divorcé. Comment peuvent-elles participer toutes les deux? Ou l'une d'entre elles? À l'enlèvement? 207 comment? Je n'ai émis c'est pas. Je n'ai émis pourrait vous le dire. La question Esther, peuvent-elles participer à l'enlèvement? Divorcées. Chacune d'elles divorcées. Chacune d'elles a un conjoint en vie. Puis elles se sont remariées. Toutes les deux se sont remariées. Et maintenant? Celle qui? Cette femme a un mari en vie. Cet homme a une femme en vie. Et maintenant? Ils ont des enfants. Etc. Et ils veulent venir à Dieu. Peuvent-ils aller dans l'enlèvement? Cela dépendra du Père Céleste. Je n'ai émis pour répondre à cela. Voyez-vous? 208 juge saine chose, la Bible dit qu'ils seront appelés, adultères. Et la Bible dit aussi, un adultère n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est Esther tout ce que je peux dire. Je sais. Cela me fait affreusement mal à qui de le dire. Mais je n'ai émis peut dire que ce que dit la parole. Je dois m'en tenir à cela. Question et réponse COD 27 mai 1962 p. 17. Mais maintenant quant à dire simplement, je... Frère Branham. Je me suis marié et ma femme Esther une non-croyante. Et voici une sœur que je peux épouser. J'ai l'intention de quitter celle-ci afin d'épouser celle-là. Oh! Non. Certes non. Votre vœu demeure jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et rien d'autre mon ami vous permettra de vous marier, selon la Bible. Jusqu'à la mort de votre conjointe. C'est Esther juste. C'est Esther le seul motif. Il n'y a pas du tout moyen de se remarier à moins que le conjoint Néhémi meure. C'est Esther tout. Voyez-vous? Le signal rouge de S avenue paragraphe 136. Et une femme? Qui sort avec un autre homme? Elle est Esther morte pour son mari. Elle a renié sa propre chair. Elle s'est Esther retirée de lui. C'est Esther juste. Au jour du jugement, elle devra répondre pour cela. La seconde venue du Seigneur 17 avril 1957 paragraphe 81. Mais qu'en est-il? Si, ses lèvres ont baisé un autre homme ce jour-là? Ou un autre moment? Qu'en est-il si vous en êtes conscient? Qu'en est-il si ses bras ont serré un autre homme? Elle est-elle totalement une abomination sur vos genoux? Vous n'aimez, voulez rien avoir à faire avec elle. Ainsi, en tant que pasteur, que pouvons-nous donc faire? Réponse numéro 9. Qu'est-ce qu'un pasteur peut faire? Le pasteur doit faire tout ce que la parole lui exige de faire. Il doit prêcher cette vérité, afin que les autres Néhémie puissent pas commettre la même erreur. Il doit prêcher la parole. Insister, en toute occasion, favorable ou non, réprimer, censurer en toute longanimité. Car l'heure vient, où les hommes Néhémie voudront plus entendre la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ainsi, c'est Esther tout ce que vous Esther exigez de faire, mon frère, prêche la vérité. Vous Néhémie pouvez pas forcer les gens à la croire et la vivre. Mais ils devront se tenir devant vous au trône du jugement de Christ. Si un homme choisit de pardonner sa femme pour avoir commis adultère contre lui, alors il peut la recevoir de nouveau, comme Adam le fit. Mais si elle le quitte, divorce de lui et se marie avec un autre et ensuite décide plus tard de revenir à lui, la parole de Dieu l'oblige à Néhémie plus la reprendre. C'est Esther ce que l'Écriture enseigne. Question et réponse 15 octobre 1961 MP, 81. Si vous considérez ce que Jésus avait dit. Maintenant, ici, j'ai un frère biologique, qui tient à marier une femme. Et mon frère a déjà été marié avant et a eu un enfant par une bonne femme. Et il est venu vers moi pour la marier. J'ai dit, pas question. Jésus a dit dans Matthieu 5, quiconque répudie sa femme et épouse une autre, sauf en cas de fornication, ce qu'elle a dû faire avant qu'elle n'ait mis soit mariée, qu'elle n'ait mis le lui avait pas confessé, l'expose à l'adultère, quiconque l'épouse, celle qui est répudiée, vit dans l'adultère. Ainsi, Néhémie, le faites pas. Non. Vous, Néhémie, pouvez pas rentrer à votre première femme, si elle s'estère de nouveau mariée. Question et réponse COD 28 juin 1959 SP, 107. Maintenant, nous en avons encore une et puis ce sera tout. Voyons. 91 Frère Bill, telle est-elle la différence entre la fornication et l'adultère? Selon Matthieu 19.9, 185 Jésus dit dans Matthieu 19.9, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, sauf pour cause de fornication, comme un adultère. La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être utilisé d'une façon ou d'une autre. Mais pour éclaircir ce dont il parlait là, cela, une femme célibataire, Néhémie, peut commettre adultère parce qu'elle n'a pas de mari envers qui commettre adultère. Pour elle, c'est une impureté. Elle doit confesser cela à son mari avant leur mariage, si elle a fait cela. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier, parce qu'elle a fait un faux vœu. En effet, la Bible dit, que cela soit bien. Ou plutôt c'est le rituel qui le dit. Que cela soit bien connu de vous, j'ai cela dans la mienne. Que si un couple est uni autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Je vous demanderai et exigerai de vous deux, puisque vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront révélés, que si l'un de vous connaît quelque chose qui empêcherait que vous soyez légalement unis, qu'il le confesse maintenant. Vous y êtes. Voyez, 186 donc. La fornication, c'est ce qu'une jeune fille quand elle mène une vie impure, c'est la fornication, étant donné qu'elle n'a pas de mari. Mais quand elle est mariée et qu'elle mène alors une telle vie, elle commet adultère contre son mari. Question numéro 10, dans l'Éden de Satan 26. Vous avez donné l'écriture et la citation suivante, Deutéronome 23, 2 à celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. La semence du serpent 28 septembre 1958 SP, 10. Nous sommes rentrés dans Deutéronome et avons montré qu'un enfant illégitime, un enfant bâtard, Néhémie pouvait même pas entrer dans la congrégation du Seigneur, pendant 14 générations. C'était sous la loi, et Christ est venu magnifier la loi. Combien plus, ça l'estère maintenant? Qu'est-ce que cela veut-il dire? Réponse numéro 10, remarquez, frère Branham a dit enfant illégitime. Ensuite il a lui-même corrigé et a dit, enfant bâtard. Maintenant, un bâtard et un illégitime sont tous nés, hors du toit conjugal, mais la différence est qu'en enfant bâtard, est le produit d'une union entre un homme et une femme, qui sont mariés à d'autres, mais qui ont commis adultère et ont eu un enfant. Cet enfant ira en enfer, de même que le couple adultère, qui a produit cet enfant. Il y a de cela quelques années, il y avait un couple dans l'église de Frère Vell, c'était des jeunes, et ils avaient des troubles dans leur mariage. Frère Vell leur fit asseoir et leur dit, vous êtes tous deux jeunes et si vous divorcez, vous aimerez vous remarier. Et si vous vous remariez, vous irez en enfer. Et la personne que vous allez marier ira en enfer avec vous. Et s'il y a un enfant qui est né de cette union, cet enfant ira en enfer. Ont-ils écouté? Non. Et ils ont divorcé quelques années après et tous deux se remarièrent et l'un d'eux un bébé. Ainsi, vous êtes simplement obligés de leur dire, et s'ils sont des enfants de Dieu, ils s'en tiendront à la parole. Sinon, ils feront ce qu'ils feront et les répondront pour cela, aussi certain que la parole de Dieu est-elle vraie et que toute autre parole soit un mensonge. Cessez cela, mes frères, mais comme ministres de l'Évangile, vous êtes une sentinelle. Et si vous faillissiez de leur dire, vous serez tenus pour responsable. Celui qui connaît ce qui est juste et ne le pratique pas, comme est l'iniquité. Prions.